Bonsoir et bienvenue du Grain à Moudre sur France Culture. Ce soir, le cinéma a-t-il encore besoin de la télé ? Le cinéma a toujours été en crise, disait Bertrand Tavernier il y a quelques semaines sur France Culture. Le réalisateur ne croyait pas si bien dire. Nouveau soubresaut ces derniers jours, nouvelle inquiétude. En cause, une lettre, celle envoyée il y a deux petites semaines par le président de Canal+, Maxime Saada, aux différents acteurs du secteur. Une lettre cinglante qui met fin aux négociations sur la réforme de la chronologie des médias. Une formule simple en apparence pour désigner une réalité complexe, l'articulation, l'interdépendance entre le cinéma, la télévision gratuite et payante et la diffusion des films en vidéo, à la demande notamment. Un mécanisme de précision composé de nombreux rouages, un équilibre précaire fragilisé par l'arrivée de petits nouveaux ces dernières années. Enfin, pas si petit que ça, les plateformes de vidéo à la demande, VOD, SVOD, comme Netflix ou Amazon, des groupes de plus en plus puissants qui ne cessent de croître, de se diversifier aussi. Ils diffusent des films, ils en produisent également, s'affranchissant ainsi des salles de cinéma et des chaînes de télévision pour financer leurs films, s'affranchissant donc d'un modèle traditionnel. Partant, le cinéma a-t-il encore besoin de la télé ? C'est la question du Grain à Moudre ce soir. Pour y répondre, quatre invités. Marie Masse-Monteil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes productrice de cinéma, présidente du syndicat des producteurs indépendants. Erwan Escoubé, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur juridique de la Fédération nationale des cinémas français, des exploitants donc. Ce sont eux que vous représentez ce soir. Capucine Cousin, je vais y arriver, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante, auteur d'un livre sur les nouvelles plateformes de diffusion et de production, Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, entre parenthèses, publié le mois dernier chez Armand Collin. Et puis au téléphone avec nous, Pascal Rogard. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Avant de commencer notre débat, posons-en les termes et pour bien comprendre ce qu'est cette chronologie des médias et quels sont les problèmes actuels. Marie Masse-Monteil, question simple, réponse je l'espère aussi simple. La chronologie des médias, c'est quoi ?
J'ai eu le temps de préparer, heureusement. Alors c'est un terme assez complexe, mais la chronologie des médias, ça organise l'exploitation des films sur ces différentes fenêtres d'exploitation. Mmh. Les différentes fenêtres d'exploitation, aujourd'hui c'est encore assez simple, c'est d'abord la salle. Donc il y a une exclusivité qui est donnée à la salle. Ensuite s'ouvrent les fenêtres VOD, DVD. Ensuite s'ouvre la fenêtre des chaînes payantes, mmh, qui sont Canal+, Ciné+, OCS. Et après les chaînes gratuites, qui sont les chaînes, évidemment, en clair, TF1, France 2, France 3, M6 et Arte. Et se pose, évidemment, de façon de plus en plus importante, la place de la vidéo par abonnement.
Mmh. La SVOD.
SVOD, notamment les chaînes américaines, enfin les plateformes américaines. Mmh. Donc ce système est assez complexe parce que ça permet le préfinancement des films. C'est-à-dire que les films de cinéma, pour être financés, sont encore aujourd'hui largement et principalement financés par les chaînes de télévision, qu'elles sont gratuites ou payantes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'organiser ce séquençage. Mmh. C'est-à-dire que chaque chaîne, chaque acteur, chaque fenêtre d'exploitation a droit à des fenêtres exclusives. En tous les cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Et ce séquençage s'organise de façon relativement harmonieuse dans le temps et la durée.
Autre élément, vous parliez de ces plateformes de SVOD, Netflix et compagnie, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Capucine Cousin, qui, elles, doivent attendre jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, 48 mois avant de pouvoir diffuser un film qui a été diffusé en salle. Non, vous me faites nom de la tête.
La SVOD payante type Netflix, c'est 36 mois.
36 mois.
C'est la SVOD gratuite. Enfin, qui est à 48 mois.
En tout cas, un temps très long, entre 36 mois, 3 ans, donc, alors que ces plateformes sortent, elles, maintenant, leurs propres films directement, sans passer par les salles, disponibles directement pour les abonnés et les spectateurs. C'est un système, celui que vous venez de décrire, Marie Masse-Monteil, qui date de 2009, qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui était rediscuté depuis des années, et compte tenu, entre autres, donc, de ces plateformes, eh bien, est-ce qu'il faut réellement le réformer? Est-ce qu'il faut le réformer en profondeur? Erwan Escoubé.
Alors d'abord, c'est un système qui est même beaucoup plus ancien que 2009. Les premiers accords de chronologie des médias, si on voulait faire de l'histoire, il faut remonter aux années 70. Les premiers rapports entre les chaînes de télévision et les salles de cinéma, où il y a eu un premier accord qui a permis la régulation de la vie du film entre le cinéma en salle et la télévision. 2009, c'est le dernier grand accord qu'il y a eu sur la chronologie des médias, celui qui était en vigueur, qui a été en vigueur jusqu'à présent et qui a été renégocié ces dernières années au Centre national du cinéma, avec le ministère de la Culture, avec un médiateur. Un des objets principaux de cette renégociation, c'était effectivement de pouvoir intégrer dans la chronologie des médias ces acteurs de ce qu'on appelle la VOD par amendement, donc ceux dont vous parliez, sachant que l'idée, c'est d'accorder quand même une place privilégiée à des acteurs de la VOD par abonnement, ce qu'on appelle vertueux, c'est-à-dire des gens qui veulent à la fois payer leurs taxes en France, mais également financer le cinéma, comme le font actuellement Canal+, ou OCS, mais comme nous le faisons, salles de cinéma en France, les salles de cinéma, c'est 200 millions d'euros qui remontent au cinéma français, plus les taxes de 150 millions qui remontent des salles de cinéma. Voilà. Mmh. C'est ça qu'on appelle des opérateurs vertueux.
Voilà donc pour un premier décor planté. Revenons à ces négociations. Tous les acteurs de la filière approuvent une réduction des délais, des fenêtres que vous évoquiez, Marie Masse-Monteil, entre la sortie en salle et la diffusion donc sur d'autres supports. Les discussions étaient quasiment terminées ces dernières semaines avec tous les acteurs, producteurs, distributeurs, chaînes de télévision encore. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Pascal Rogard, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ces longues discussions n'ont-elles pas abouti?
Alors, les discussions sur la chronologie des médias, elles ont abouti, même si l'accord qui a été trouvé n'est pas satisfaisant et ne durera pas longtemps.
Il n'est pas signé.
Il a été signé par beaucoup de monde, mais ce qui n'a pas été signé, c'est l'accord entre les professionnels du cinéma, Canal Plus et Orange. Mmh. Je vais juste vous dire sur ce qui devrait être signé, ce qui a été signé sur la chronologie, qu'il y a quand même un bug très important, c'est que l'accord qui est prévu ne respecte absolument pas le principe de neutralité technologique. C'est-à-dire que si Netflix prenait des engagements identiques à ceux de Canal Plus en matière d'obligation générale, en matière de diversité, il serait à 17 mois, alors que Canal Plus serait à 8. Mmh. Donc il y a une sorte de punition pour les petits nouveaux, voilà, tout simplement parce que quand ces textes ont été faits, les petits nouveaux n'étaient pas là, et les petits nouveaux, on les met au fond de la classe.
Et ça, Capucine Cousin, c'est pas tenable?
Oui, effectivement, c'est vrai que Netflix est arrivé en France assez récemment quand même. Ça fait 3 ans qu'il s'est lancé en France. Là, actuellement, il compte au moins 3,5 millions d'abonnés en France.
C'est 127 beaucoup. Millions dans le monde.
127 millions, 137 millions d'abonnés dans le monde selon les derniers résultats.
Là, vous avez des chiffres plus actualisés que les miens.
C'est ceux qui sont sortis là il y a 15 jours. C'est devenu un acteur quand même très important. Et donc, c'est normal que tous les acteurs du cinéma, etc., se disent que Netflix devrait contribuer comme les autres à la production, à l'économie du cinéma, à la production de films, etc.
Parlons de ces nouveaux entrants. Ah, Marie Masse-Monteil, oui.
Oui, Pascal dit que Netflix, effectivement, on n'a pas signé un accord avec la neutralité technologique. Mais en même temps, pour certains, bon, il y a eu des grands débats. On en discute depuis 2009, donc il y avait quand même ce débat essentiel. Est-ce qu'on met les plateformes de SVOD, même vertueuses, en face de Canal, qui continue à être quand même, jusqu'à aujourd'hui, le socle de financement du cinéma, le premier socle de financement? Et on avait cru comprendre, mais Capucine va peut-être nous éclairer là-dessus, que de toute façon, même à 6 mois, ça arrangeait pas tellement Netflix. Ils veulent pouvoir diffuser... ils ne veulent pas que la salle ait une priorité sur la diffusion pour leurs abonnés. Et d'ailleurs, à Cerimania, Reed Hastings a dit « Bon, je laisserai une semaine à la salle. »
Le patron de Netflix, hein, Reed
Hastings. Le patron de Netflix, il a dit « Je peux envisager de laisser une semaine à la salle, mais c'est tout. » Donc nous, collectivement, on s'est dit « À partir du moment où, pour l'instant, il n'y a pas d'acteur vertueux, laissons une petite longueur d'avance au premier de cordée qui est Canal+. »
Parlons encore une fois de ces nouveaux entrants, puisque on l'évoque déjà largement depuis le début de cette émission. Plusieurs se réjouissent, plusieurs cinéastes, plusieurs membres de cette filière se réjouissent de les voir arriver. C'est le cas de Bertrand Tavernier que je citais il y a quelques instants. Il dit notamment que Netflix, Amazon et les autres sont un remède au conservatisme des studios, qu'ils permettent à des films d'auteurs de se réaliser. Pascal Rogard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Je suis d'accord avec l'analyse, sauf que ces films d'auteur, pour le moment, en tout cas en France, ne peuvent pas aller dans les salles de cinéma, c'est ça le problème. Actuellement, il y a une sorte d'aspiration du système audiovisuel par la série, et toute une partie des grands créateurs de cinéma sont aussi aspirés et abandonnent le cinéma, tout simplement parce que le cinéma ne leur offre peut-être pas tous les investissements qu'ils peuvent avoir pour faire leurs films. Bon, le sujet, bon, c'est vrai que Reed Hastings a dit à Lille, ça c'est exact, qu'il voulait une semaine. Bon.
Mais c'est pas beaucoup.
Je pense que si on avait au moins une réglementation, parce qu'il n'y a pas que Reed Hastings, Reed Hastings aura des concurrents et des concurrents très importants dans les mois qui viennent.
Vous pensez à qui?
On ne peut pas durablement avoir une réglementation qui fait fuir de l'investissement dans le cinéma les nouveaux opérateurs qui sont les plus importants pour l'avenir. On ne peut pas tenir, tout simplement parce que actuellement, c'est ce que je note, on parle plus de séries que de films. Et Erwan Escoubet pourra me dire aussi que depuis 4 mois, la fréquentation en salle baisse. Alors le cinéma a besoin de se renouveler, il a besoin de ces nouveaux investisseurs, et on ne peut pas les laisser de côté. Il faut faire une réglementation qui soit adéquate pour eux. Après, ils prennent ou ils ne prennent pas. Mais on peut pas, parce qu'ils passent par Internet et pas par le Hertzien, les reporter à 17 mois. C'est pas possible.
Erwan Escoubet.
Alors, d'abord, il faut quand même se rappeler que sur les opérateurs de VOD par abonnement, il n'y a pas que Netflix, il y a d'autres opérateurs comme par exemple Amazon qui existent.
Il y en a 65 en France.
Voilà,
hein, dont certains existent depuis très longtemps.
Certains souhaitent tout à fait respecter les règles, les usages. La chronologie des médias, certes, elle est en partie réglementée en France et c'est aussi en partie un accord collectif. La France est loin d'être le seul pays du monde à fonctionner comme ça. Les systèmes où d'ailleurs il n'y a pas de chronologie des médias, où ce ne sont que les acteurs qui négocient entre eux, ce sont les systèmes qui laissent la place aux plus forts. La qualité de la France, c'est quand même de permettre de donner une place à la diversité. La France, c'est le septième pays en nombre d'entrées pour le cinéma dans le monde, mais en réalité, c'est le troisième pays si on compare ça à la population de chaque pays. Le premier pays le plus cinéphile, c'est la Corée du Sud, après c'est les États-Unis et après c'est nous. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'en France, on peut présenter les films dans leur diversité, et attention, c'est très important, et ça je le dis aussi pour Pascal Rogat, les salles de cinéma en France, elles sont présentes absolument partout. Elles sont l'animation du territoire et elles présentent notamment, grâce au cinéma à essai, toute la diversité des films. C'est pour ça qu'on a besoin d'une fenêtre d'exclusivité qui est encadrée par la chronologie des médias et qu'on ne peut pas accepter qu'un opérateur qui dit brasser des millions ne veuille pas jouer les mêmes règles du jeu que les autres.
D'autant que les exploitants participent largement au financement des films. On va y venir dans quelques instants. La réponse de Pascal Rogat.
Non, je ne mets absolument pas en cause le délai de protection des salles. C'est-à-dire l'accord qu'on a trouvé, je crois qu'il était d'ailleurs pour quelque chose, 4 mois avec une dérogation à 3 mois pour les films qui font moins de 100 000 entrées en salle. Ça, je ne remets pas en cause, parce que la salle de cinéma, c'est le socle du cinéma. Je ne remets pas en cause. Mais je dis que derrière, il faut regarder le monde qui arrive. Et on ne peut pas repousser très loin les opérateurs Internet qui sont ceux qui sont en train de gagner des parts de marché. Car plus on les repousse loin, moins ils financeront les films et plus ils financeront autre chose, c'est-à-dire de la fiction, et plus ils nourriront ce phénomène qui est en train de se produire, c'est que le cinéma intéresse moins alors que la fiction intéresse plus. Donc il faut retrouver des ressources pour le cinéma. Peut-être que M. Redastine, lui, les délais français, s'ils étaient raisonnables, n'intéresseraient pas. Mais peut-être que d'autres opérateurs Internet puissants pourraient être intéressés par des délais comme 7, 8 mois, 9 mois. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Pourtant, actuellement, Capucine Cousin, Netflix essaye de faire bonne figure en France en participant volontairement au financement du cinéma français, en réalisant quelques coups de com' aussi, en annonçant la production de films français.
C'est toujours ambigu parce que c'est vrai que Netflix, bon, on a bien vu le clash qui a eu lieu au Festival de Cannes cette année. Et à côté de ça, comme par hasard, juste quelques jours avant l'ouverture du Festival de Cannes, il y a un premier film français qui est sorti directement sur Netflix, qui s'appelle « Je ne suis pas un homme facile », par Éléonore Pouria, une comédie féministe, assez drôle d'ailleurs. Mais la jeune cinéaste elle-même, elle m'avait dit, quand je préparais ce livre, qu'elle a trouvé très vite ses financements, donc à peu près 5 millions de dollars auprès de Netflix, de manière bien plus rapide qu'elle ne les aurait trouvés par les circuits classiques de financement de premiers films en France. Et l'autre argument de Netflix qui elle, lui a plu, parce qu'elle s'était déjà fait remarquer par un court-métrage diffusé sur YouTube auparavant, Netflix lui donnait cette enveloppe immédiatement et il lui promettait, certes il n'y avait pas de sortie en salle, mais il lui promettait que son film serait diffusé immédiatement de manière mondiale grâce à la plateforme Netflix. Et ça, c'est un argument qui marche auprès de certains cinéastes. Et on a bien vu ces derniers temps d'ailleurs que des grands cinéastes ont signé leur prochain film chez Netflix.
Et par exemple Martin Scorsese, voilà, avec Eli Richman, Robert De Niro, Al Pacino.
Tout à fait, c'était une des grandes surprises au Festival de Cannes cette année quand on a appris que Martin Scorsese, son prochain film, Via Richman, qui a au moins 100 millions de dollars de budget, sera produit directement par Netflix et ne sortira probablement pas en salle En tout cas, pas en France, vu la chronologie des médias actuels.
140 millions d'euros de budget, un peu au final pour ce film de Martin Scorsese. Ça vous fait hausser les sourcils, hein, Marie Maspontaille. Quand vous entendez Pascal Rogard dire, il faut trouver, faire de la place à Netflix. Netflix n'a pas la place qu'il mérite aussi aujourd'hui. Netflix et d'autres plateformes de SVOD également. Comment faire pour trouver cette place? Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui, Marie Maspontaille?
Non, mais déjà, effectivement, il a dit, il y a peut-être d'autres plateformes. Moi, ce qui m'inquiète, et je pense que c'est un sujet politique, principalement, c'est que toutes les plateformes de SVOD dont on parle, qui seraient capables d'être et susceptibles d'être une alternative concurrente à Canal+ et Orange, sont extra-communautaires. Mmh. Elles sont américaines, principalement. Évidemment, on est les premiers à être inquiets. Enfin, mon syndicat et l'ensemble des syndicats, l'ensemble des producteurs français, de voir la dégradation des investissements de Canal+ dans le cinéma, c'est clair. Je rappelle ce chiffre parce qu'il est toujours assez effrayant. En 2012, Canal+ investissait 170 millions d'euros dans le cinéma français, parlant français. Et l'année dernière, c'était 114 millions. Parce qu'ils perdent des abonnés, parce que ils font des offres commerciales plus intéressantes, donc ils sont plus à 39,90, donc il y a une perte du chiffre d'affaires. Voilà, nous, on les encourage à continuer à financer le cinéma français. On fait partie, avec le SPI, des syndicats de producteurs qui cherchent vraiment, malgré la lettre de Maxime Saada, à renouer le contact et avoir un accord avec eux.
Vous l'avez renoué, ce contact, d'ailleurs, depuis la lettre?
Tout le monde est un peu en vacances et Maxime est aux États-Unis. Mais on se parle quand même. Ouais. Oui, on espère qu'on va pouvoir se reparler à partir du 5 novembre. Mais à une époque, par exemple, il y avait toute cet engouement autour d'Altice, et on s'était dit, Altice, ça va être bien, ils vont arriver sur le financé par Patrick Drahi, et puis tout d'un coup, tout s'est cassé la figure. Donc en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est une alternative, un champion européen au moins, qui serait une alternative à ces plateformes de SVOD américaines.
Oui, et à vous entendre, si je comprends bien, en France, pour remplacer, en quelque sorte, ou pour consolider, soutenir Canal+, il n'y a pas grand monde.
Il y aurait Orange, ou alors il faut inventer un nouveau canal. Après tout, en 1983-84, il y avait un président de la République, il y avait André Rousselet, il y avait Jacques Lang, Frédéric Bredin était sa conseillère, le cinéma français s'était cassé la figure, ils ont réinventé un modèle. Donc là, en fait, ça va être d'une certaine façon clair, et au moins on sera au pied du mur. Soit Canal considère qu'ils ont eu un petit coup de chaud là, et parce que nous, on n'est pas facile non plus, objectivement. Parfois, on est un peu pénible dans nos négociations, collectivement, j'entends. On renoue le contact et puis on resigne un accord malgré la lettre qu'on a reçue. Soit ils en ont marre du cinéma français. Et à ce moment-là, il faudra bien trouver une alternative, ou alors il n'y aura plus de cinéma français, c'est clair.
Pascal Rogard, à vous entendre depuis le début de cette émission, on a l'impression que l'accord qui est signé va être signé, en tout cas la grande partie des sujets sur lesquels les différents acteurs se sont déjà mis d'accord n'est pas tenable à long terme. Est-ce que, comme Marie Maspontaille, vous pensez qu'il faut faire du passé table rase et essayer de trouver un tout nouveau système?
Non, il ne faut pas faire du passé table rase, il faut simplement avoir l'intelligence de s'adapter, comme on l'a toujours fait. La lettre de Maxime Saada, moi j'aurais été à sa place, je la comprends, il était exaspéré par des demandes, des redemandes et tout. Moi j'ai eu un conflit très grave et très compliqué avec Canal+, l'année dernière, sur les droits d'auteur. Bon, j'ai trouvé une issue.
Canal+ ne voulait plus payer les droits d'auteur.
Ouais, ils nous ont même cessé de payer brutalement, ils exécutaient leur contrat. On a trouvé une sortie parce que tout simplement on peut discuter avec eux. Bon, c'est pas des gens avec qui on peut pas discuter. Je pense que c'est des gens qui ont le souci et l'intérêt en plus de continuer à faire des films et du cinéma, parce que le cinéma c'est une des marques de fabrique importantes de Canal+. Ce que dit Marie, elle a raison, il faut chercher une alternative. L'alternative du côté privé, on la trouvera difficilement. Tout simplement parce que vis-à-vis de Netflix, on peut pas être franco-français. Je l'ai dit et je le redis, Salto, c'est de la rigolade. L'alliance de TF1, M6 et France,
France Télévisions,
leur propre programme, c'est pas ça qui va contrer Netflix. Pour contrer Netflix, il faut une ambitieuse initiative politique qui doit provenir, à mon avis, du président de la République Emmanuel Macron, de la chancelière allemande, d'autres chefs d'État européens, et qui s'appuie sur les services publics européens, en particulier Arte, France Télévisions, d'autres, la RAI, peut-être la BBC, on espère qu'ils ne sortiront pas du système, parce que si on additionne l'ensemble des programmes de télévision et de cinéma que l'on produit en Europe, on est tout aussi fort et même meilleur que Netflix.
Et le cinéma a-t-il encore besoin de la télé? C'est la question que nous posons ce soir dans Du Grain à Moudre sur France Culture. Nous en parlons avec Capucine Cousin, journaliste indépendante, auteur d'un livre sur Netflix, Erwan Iskoubé, directeur juridique de la Fédération Nationale des Cinémas Français, Marie Masse-Monteil, présidente du syndicat des producteurs indépendants, et Pascal Rogard au téléphone, directeur général de la SAACD. Capucine Cousin, vous venez d'entendre Pascal Rogard souhaiter la création d'une vaste plateforme européenne. Je me souviens qu'il y a quelques mois ou quelques années, Canal+ l'avait évoqué, voulant s'allier avec des plateformes en Italie et en Allemagne. Ça n'a pas encore fonctionné, mais est-ce que ça vous paraît pertinent et faisable surtout?
Oui, parce que ce qu'on voit actuellement en Europe, il y a plusieurs initiatives, mais nationales, au niveau des pays. Alors effectivement, il y a cette initiative Salto, pour l'instant le budget c'est 60 millions d'euros, c'est peu. En Grande-Bretagne, il y a aussi une initiative conjointe de plusieurs chaînes de télé pour produire des programmes, des séries en commun. On retrouve aussi une initiative similaire en Europe du Nord. Mais tout ça, c'est des initiatives nationales. Et c'est vrai que ce serait plus constructif d'avoir une initiative européenne qui réunisse plusieurs chaînes. Pourquoi pas, pour qu'elles puissent faire des productions communes de séries. Alors même si elles ne pourront jamais contrer Netflix, elles n'auront jamais sa taille, sa puissance, son capital, etc. Mais au moins, elles pourront faire des grosses coproductions européennes. Parce que ce qui est préoccupant aussi, c'est que Netflix en vient également à faire des productions locales, ultra locales, mais qu'il arrive à diffuser partout dans le monde.
On pense à des séries espagnoles, des séries...
La Casa del Papel, série espagnole qui marche partout dans le monde, par exemple.
Il n'y a pas que ça, évidemment. Erwan Escoubé, l'arrivée de ces plateformes de SVOD, en tout cas des grandes plateformes, parce que je le disais, elles existent en France depuis des années, 10 ans pour Filmo TV, par exemple. Est-ce qu'elles ont un impact sur la fréquentation des salles de cinéma?
Alors nous, on n'en a pas l'impression. Vous voyez le désarroi que ça sème chez notamment les producteurs, et tout le désordre que ça a provoqué dans la renégociation de ces discussions sur la chronologie des médias. Mais nous, on constate que le public est toujours au rendez-vous. Certes, on a eu un mauvais été avec la canicule, avec la Coupe du Monde de football, qui a certainement éloigné un peu les spectateurs des salles. La semaine dernière, on a eu une très bonne semaine, on a fait 6 millions de spectateurs. Regardez, le Grand Bain a fait 1 500 000 spectateurs.
En une semaine,
c'est quand même assez fantastique. Les spectateurs sont toujours là, et notamment, je prends, et ça c'est très important de le dire, notamment le jeune public. Ils vont plus au cinéma que les autres. C'est 33% des 33% du public, ce sont des moins de 25 ans. Ils sont plus présents que les autres spectateurs. Ils vont en moyenne 6 fois au cinéma par an. Les jeunes vont au cinéma, les gens continuent à aller au cinéma. Le cinéma, c'est pas, contrairement à ce qu'on lit parfois, un truc de retraité. Pas du tout. Le cinéma en salle, il est ultra vivant, et les salles font vivre le cinéma longtemps.
Et ils vont voir quoi au cinéma rapidement? Des grands films, des grands blockbusters américains pour se divertir, ou aussi ils sont attirés par des films français?
De tout, justement, c'est ça qui fait le travail intéressant des salles de cinéma.
Évidemment.
Non, bien sûr, vous avez raison. Mais bien sûr qu'ils vont voir de tout. Et je pense que d'abord, les vrais cinéphiles, ils vont voir de tout. On met pas une catégorie sur les blockbusters d'un côté et les films plus arrêt essai de l'autre. Je pense que le travail des salles de cinéma, qui est un travail qu'elles font spontanément et qui fait aussi partie du mécanisme de fonctionnement qu'a mis en place le CNC, c'est de proposer une programmation la plus diversifiée possible. Toutes les salles de cinéma savent qu'avec près de 700 films qui sont sortis cette année en France, c'est plus qu'aux États-Unis, elles ont besoin de proposer une diversité de programmation. Il y a 20% de séances en plus depuis 10 ans. Les gens peuvent aller voir des films quand ils le veulent, partout.
Marie Masse-Monteil, cette diversité du cinéma en France, pas seulement le cinéma français, mais ça le concerne aussi, est-ce qu'elle est menacée dans les années qui viennent par l'expansion de Netflix et compagnie?
Je ne sais pas, je pense que les gens, quel que soit le média, ont envie qu'on leur raconte des histoires. Donc nous... dans mon syndicat, on est extrêmement attaché à l'idée qu'un film de cinéma, c'est un film qu'on va voir dans une salle de cinéma.
Oui, c'est une question qui se pose.
C'est la première question qui se pose, et on a toujours défendu l'exclusivité de la salle, parce que dans cette question de chronologie des médias, il y avait la première question qui se posait et qui faisait débat, c'était est-ce que la salle doit avoir 3 mois d'exclusivité ou 4 mois d'exclusivité? Sachant que, il y a des films qui restent très longtemps, qui ont des carrières très longues, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de films, notamment de la diversité, qui restent 4 semaines sur les écrans et puis qui disparaissent. Mais en même temps, nous, on prône un truc qui est un peu un vrai slogan, qui est l'égalité des films devant l'écran. Un film de cinéma doit sortir en salle. Et ce qui pose un problème pour les films Netflix et qui pose notamment un problème pour le Festival de Cannes. Après, tant mieux si cette année, et je m'en réjouis vraiment, si les salles de cinéma continuent à être un grand vecteur et qu'il y a toujours 200 millions de spectateurs, mais Pascal en a parlé aussi, la vraie question qu'on peut se poser aussi, c'est l'arbitrage entre les séries et le cinéma. Parce que les séries, c'est 10 fois une heure, 22 fois une heure, c'est du temps de cerveau disponible. Et donc, je sais que, par exemple, les éditeurs, ils trouvent que les gens lisent moins parce que peut-être ils regardent plus de séries et les séries, c'est encore une fois ultra chronophage. Un film, c'est en moyenne 1h30, 2h. Mais une série, on peut le binger tout le week-end, mais
ça
c'est...
Ça prend beaucoup de temps, effectivement.
Ouais, c'est 10 heures. Ouais. Le Bureau des légendes, c'est 10 heures. West Wing, c'était 24 fois 1 heure, je crois. Ouais. Donc voilà, est-ce que les gens, ils ont aussi besoin de, je sais pas, de faire du sport, d'aller faire, s'occuper de faire des courses. Et donc cet arbitrage avec cette espèce de frénésie sur les séries et notamment sur Netflix, ça va peut-être réduire le temps pour faire autre chose et notamment aller au cinéma.
20% des films font encore 20% de leurs entrées à partir du quatrième mois. Les gens, ce sont les films notamment à réessai qui sont portés assez longtemps par les salles parce que les gens vont au cinéma. Les gens vont au cinéma parce que les salles de cinéma sont confortables, parce qu'ils s'y sentent bien, parce que c'est un spectacle collectif tout simplement et que c'est le plaisir de sortir ensemble. Ce que disait Marie Masse-Monteil est tout à fait juste. La grande concurrence qui se pose actuellement, c'est dans ce que font les gens chez eux. C'est regarder la télévision ou regarder Netflix ou prendre un livre. Effectivement, les libraires s'inquiètent beaucoup de la concurrence de Netflix en se disant, mais voilà, les gens, est-ce qu'ils ont encore du temps disponible ? Nous, salles de cinéma, on considère que on attire toujours le public parce que le public aime sortir, il aime voir des films en salle parce que c'est pas du tout la même chose. Et on comprend pas vraiment les festivals qui disent défendre des films de cinéma tout en défendant Netflix sur des films qui seront visibles que sur une tablette. Et d'ailleurs, on ne sait même pas où ils sont sur Netflix au bout de 2 semaines. Ils ont disparu. C'est ça qui est terrible.
Pascal Regard.
Non, d'abord, moi, je regarde Netflix et les autres plateformes, je sais où sont les films, je sais les trouver, c'est pas compliqué, il y a un moteur de recherche qui est très bien fait. Bon, il faut quand même pas critiquer Netflix sur ce plan-là, parce que c'est une plateforme qui a une agilité, une ergonomie qui est formidable. Non, je pense qu'il y a deux dangers pour le cinéma en France. Il faut d'abord que les salles se maintiennent, ça c'est important, c'est primordial, et nous devons, nous, professionnels, notre responsabilité, c'est de préserver les salles. Simplement, les salles doivent s'inquiéter du financement de la production. Parce que si le financement de la production française se délite, il est bien évident que la fréquentation en salle se délitera parce qu'elle repose beaucoup aussi sur justement la diversité du cinéma français. Et de l'autre côté, les salles doivent aussi s'inquiéter de l'effet Netflix, car si une dizaine de films importants qui peuvent avoir des succès d'audience en salle dans d'autres pays où ils ne seront moins contraints sur les histoires de chronologie des médias, ces entrées-là ne se font pas parce que nos règles empêchent que les films soient diffusés en salle, évidemment, l'exploitation perdra aussi pas mal de ressources et sera en difficulté. Donc on est dans un moment où il y a un grand changement et je pense qu'au lieu de se bagarrer sur des petits détails dans les accords, on ferait mieux de tous réfléchir ensemble à comment adapter nos règles à la nouvelle donne.
Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Pascal Regard, ce qui est au cœur là, du sujet, ce que nous abordons depuis quelques minutes, c'est le financement du cinéma, Marie Masse-Monteil. Est-ce que le système actuel peut continuer tel quel encore pendant des années ? Avec ce financement qui est assez complexe, hein, les salles, les exploitants y participent
en recettes et
en prix financement avec une taxe prélevée sur...
Alors, il y a une taxe qui représente à peu près 150 millions d'euros, dont la moitié va aux salles et l'autre moitié à la distribution, à la production, etc. Et on remonte au cinéma français, juste au cinéma français, 200 millions d'euros en recettes. C'est 550 millions en tout, mais c'est 200 millions pour le cinéma français. Ce qui est à peu près autant, même plus que Canal+.
Oui, puisque les chaînes de télé aussi participe à ce financement, bien évidemment.
Marie Masse-Monteil. Oui, c'est ça la question. C'est-à-dire que le socle de financement du cinéma français, bon, on va dire le cinéma français parlant français, c'est à peu près 1,4 milliard, 1,6 milliard de coûts pour fabriquer les 170 films français de fiction, on va dire, parce qu'on a produit 300 films l'année dernière, mais là-dedans, il y a des films majoritairement étrangers, puis il y a pas mal de documentaires. Donc le socle de financement, c'est toujours encore aujourd'hui les chaînes de télévision, d'où la chronologie des médias. Les trois chaînes payantes, Canal+, Ciné+, OCS, c'est l'année dernière, c'était 166 millions d'euros pour les films français parlant français, dont 114 millions pour Canal. Et les chaînes en clair, donc TF1, France 2, France 3, Arte, M6 et C8, c'était environ 125 millions. Voilà, donc 125 millions plus 166 millions, ça fait, je ne sais pas, vous calculerez.
291
millions. Voilà. Et c'est ça le socle de financement du cinéma français. Donc, si la première branche qui est Canal, moi je suis comme Pascal, hein, je pense qu'il faut absolument qu'on trouve un accord avec Maxime Saada. Et que vraisemblablement on va le trouver. Enfin, on va le trouver peut-être pour.
Mais pour combien de temps ? Parce que c'est ça,
oui,
la question.
2 ans. Enfin, en principe, c'est 4 ans. Ouais. Mais en même temps, il peut se passer des choses. Donc, ça peut. L'environnement juridiquement peut évoluer. Donc, on pourrait être peut-être amené à renégocier. Mais a priori, c'est pour 4 ans. Et parallèlement, c'est vrai que les chaînes de télévision vaillamment continuent à préfinancer des films, notamment celles du service public, mais TF1 aussi. Hein. Simplement, là, on a un vrai problème parce qu'elles exposent de moins en moins les films à des heures, disons, de prime time. La plupart des films de la diversité, même lorsqu'ils sont financés par France 2, France 3, sont diffusés à minuit et demi. Donc, on peut imaginer que les chaînes de télévision, en clair, à un moment donné, vont vraiment... Enfin, elles se posent déjà la question depuis pas mal de temps, hein, évidemment, mais de leur désir de continuer à financer un cinéma qu'elles diffusent extrêmement tardivement.
Avant de passer la parole à Pascal Rogard, Capucine Cousin, est-ce que vous croyez-vous qu'il y avait beaucoup travaillé sur Netflix et compagnie et ces autres entreprises de SVOD ? Est-ce que vous croyez, compte tenu de leur modèle économique, de leurs actions, à ce que le modèle actuel, qui va être donc renégocié, puisse durer pendant plusieurs années ?
Je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que Netflix, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que veut absolument Reed Hastings, le patron de Netflix, c'est de proposer des contenus exclusifs pour ses clients, pour ses abonnés. Donc lui, son point de vue, c'est que les films que produit Netflix doivent être proposés aux abonnés de Netflix en premier. C'est-à-dire que lui, ça lui semble invraisemblable que les abonnés de Netflix doivent attendre 36 mois pour voir un film qui a déjà été vu en salle avant.
On voit bien effectivement que c'est un modèle qui, là, ne peut pas tenir. Et il y a une vraie friction, une vraie opposition entre ce que dit Reed Hastings et le modèle actuel. Pascal Rogard.
Non, juste un mot. Reed Hastings, il est venu à Lille et c'était vraiment bien. Il est un peu plus pragmatique que ce qui est dit. C'est-à-dire, c'est vrai que 17 mois, ça le fait fuir. Il dit un mois, mais bon, après, s'il s'aperçoit que ça fait fuir des grands cinéastes, que les films ne sortent pas en salle, je pense qu'il sera ouvert à la discussion. Et d'autant plus si d'autres plateformes concurrentes passent des films et commencent à lui prendre quelques abonnés. Donc, je voudrais dire, sur l'exposition des films à la télévision, le CSA vient de faire un rapport où il dit que il y a 2 ans, ils sont mal exposés à la télévision sur le service public, c'est le cinéma et le spectacle vivant. Mais sur le cinéma, la profession a ses responsabilités, parce qu'elle n'a jamais accepté que des films de cinéma passent en rattrapage. Maintenant, le rattrapage, tout le monde rattrape, hein, et on rattrape tous les genres de programmes, sauf les films. Donc, c'est quand même embêtant que on puisse pas, s'il y a eu un film qui est passé et en même temps il y avait un concurrent très fort, un match de foot, autre chose, on puisse pas pendant une semaine rattraper le film au cinéma. Il faut absolument. Et ça, c'est l'exemple typique de l'absence de volonté de moderniser les règles de la profession cinématographique. Qui, à un moment donné, quand on tarde trop à moderniser, tout explose.
Rapidement, Marie Masmonteil.
Non, mais le problème, c'est qu'on est un certain nombre de syndicats et qu'on essaye d'être le plus solidaire possible. Mais en tous les cas, nous, le SPI, depuis le début, depuis la discussion avec France Télévisions, on est évidemment d'accord pour le replay des films de cinéma dans les mêmes conditions que les œuvres audiovisuelles.
Netflix donne beaucoup d'argent, on l'a dit, offre une visibilité à certains films assez forte. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs, Capucine Cousin, le nombre de vues de films produits par Netflix ? On peut penser à Okja, par exemple, qui avait été présenté à Cannes il y a 2 ans, me semble-t-il.
En fait, malheureusement, Netflix est très discret sur l'audience.
Ça, c'est
de
un problème.
Ces films. Alors, y compris pour les cinéastes qui acceptent de diffuser directement leurs films sur la plateforme Netflix. Ils n'ont pas l'audience, en tout cas pas dans un premier temps, et ils n'ont pas le découpage par pays. Et effectivement, Netflix ne communique pas sur les audiences de ses films, de ses séries, etc.
Pascal Rogard.
Non, moi je peux répondre que pour la SACD et pour la diffusion sur les territoires pour lesquels j'ai passé un accord, c'est-à-dire France, Belgique et Luxembourg, Netflix nous donne les chiffres, les auteurs connaissent les chiffres, puisqu'ils nous répartissent. Sur les films de fiction en fonction des vues. Voilà. Mais c'est vrai que Netflix ne donne pas aux producteurs, et ça c'est un vrai problème de transparence, le nombre de vues qui sont effectuées, alors qu'on connaît les entrées en salle, ou qu'on connaît les audiences à la télévision. Et ça c'est quelque chose sur lequel malheureusement les producteurs ont raté l'occasion. Ils auraient dû se battre un peu pour la transparence dans la directive sur le droit d'auteur. Voilà.
La transparence est effectivement une règle essentielle. Ce qu'on demandait dans l'accord sur la chronologie des médias, c'est que les acteurs s'engagent à financer le cinéma et qu'ils se montrent aussi, qu'ils s'engagent à payer des impôts et des taxes aussi. Ça, c'est aussi important. Et aussi qu'ils se montrent transparents. Tout le système de financement du cinéma français est construit sur un mécanisme de transparence. Nous sommes, nous, tout particulièrement transparents avec notre billetterie. C'est-à-dire chaque billet vendu dans une salle de cinéma est déclaré au Centre National du Cinéma. Et tout le système repose sur un fonctionnement transparent. Quand vous dites Netflix, ce monde discret, c'est un joli mot parce qu'ils ne veulent juste pas donner leurs recettes ni ce qu'ils font. Et donc, on ne sait pas si leurs opérations de financement d'un certain nombre de films relèvent juste de la publicité et du marketing ou d'une volonté de financer le cinéma, quand même.
Les pouvoirs publics, là-dedans, rapidement, on a entendu le nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, dire, écoutez, si le monde du cinéma, les acteurs de la filière n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faudra légiférer. Est-ce que vous y croyez, Marie Masmontaille, rapidement ?
Non, mais on peut déjà dire que la précédente ministre...
Françoise Nyssen
nous a vraiment enjoint, et on peut la remercier d'avoir fait ça, finalement, de nous mettre autour de la table et pour signer la chronologie des médias, puisque, objectivement, elle est signée.
D'accord.
Après, on a vu un nouveau problème arriver, c'était l'accord avec Canal+, parce que... Je pense qu'on va y arriver, mais il faut quand même redire que Canal+, a complètement bouleversé son modèle d'abonnement, et que donc... En matière de transparence, c'est pas vraiment de leur faute, mais il y a presque un modèle d'abonnement par abonné. Donc avant c'était
simple.
C'est un
choix de la part de Canal+.
Oui, oui, ils ont multiplié les formules d'abonnement puisque ils avaient la concurrence de Netflix par ailleurs ou d'autres modèles. Donc là, je pense que soit et moi je pense que c'est très très important que la profession se responsabilise. Qu'on arrive à sortir un peu de cette période de discussion ininterrompue qui nous fatigue tous, d'ailleurs, aussi bien Canal que nous, enfin que les différents lobbyistes qui discutent, pour réfléchir, parce qu'on va avoir d'autres enjeux l'année prochaine. Il y a la loi sur l'audiovisuel public, il y a les économies demandées à l'audiovisuel public, il y a la transposition de la directive SMA. Donc on a pas mal de choses qui arrivent, et il va falloir avoir un peu l'esprit frais pour recommencer à discuter entre nous, parce que c'est vrai que les tribus gauloises, parfois, ont du mal à s'accorder.
Il nous reste 2 minutes. Se responsabiliser, dites-vous, Marie Masmontaille, au sein de la profession. Et les spectateurs, on n'en a pas parlé, eux ne participent pas aux discussions, mais ils ont une influence aussi sur les choix qui sont faits par les différents acteurs. Erwan Escoubé, vous qui les voyez dans vos salles de cinéma, quelle est la part de responsabilité du spectateur qui va voir des films, quel que soit d'ailleurs l'écran sur lesquels il va les voir?
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème, c'est que les spectateurs, ils ne peuvent pas se démultiplier entre tous les supports qui permettent de voir un film, de lire un livre, de lire un journal. C'est ça qui est compliqué pour les spectateurs. Ça nous oblige les uns et les autres à nous montrer particulièrement dynamiques pour continuer à les attirer et à les faire venir et venir voir des films si possible en salle. Mais effectivement, pour eux, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a un côté chronophage, notamment dans les séries télévisées, qui sont en plus visibles en entier.
Pascal Regard, rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît.
Non, mais juste pour dire que Marie parle d'or, il faut, un, que la profession se responsabilise.
Ça lui fait plaisir.
Et deux, je serai le ministre de la Culture, ce que je ne suis pas. Je confierai à quelques professionnels, experts, tout ce qu'on veut, quand même une mission de réflexion pour avoir des idées nouvelles, parce qu'on sent bien que le moment est venu de dépoussiérer la réglementation, d'enlever tout ce qui n'est plus adapté au monde moderne, et peut-être créer de nouvelles règles, parce que on peut aussi inventer des choses intelligentes. Voilà.
Eh bien, on va se quitter là-dessus, des idées nouvelles, de nouvelles règles, voilà de beaux chantiers qui sont encore nombreux aujourd'hui sur la table de tous les acteurs de cette filière du cinéma. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Marie Masmontaille, présidente du syndicat des producteurs indépendants, Erwan Escoubé, directeur juridique de la Fédération nationale des cinémas français, Capucine Cousin, journaliste indépendante, auteur de Netflix et compagnie, Les coulisses d'une révolution, avec le petit R entre parenthèses, c'est publié chez Armand Collin, et puis Pascal Regard, vous êtes étiez au téléphone et vous êtes directeur général de la SACD. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Tricot, Fanny Richer, Camille Ferré, Guillaume Laguigné et Antoine Dulster. Réalisation Alexandre Fougeron, prise de son Jacques Hubert. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.